Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour aborder la suite de ce récit et pour décortiquer avec vous ce texte qui va nous montrer encore d'autres qualités de Daniel. Alors que la sentence est publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Les sages étaient mis à mort, il semble que le verbe pourrait être traduit qu'on était en train de procéder à l'exécution, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient forcément déjà, pour quelques-uns, passés de vie à trépas. Mais il est clair que l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les amener à l'exécution. Alors, Nebuchadnezzar monte d'un cran en ordonnant l'exécution immédiate. Et nous voyons qu'il se dépêche. Et peut-être, comme nous l'avions dit, cherche-t-il à gagner du temps pour éviter qu'une conspiration et qu'un complot ne se présentent et ne l'élimine de la scène. Daniel et ses compagnons font partie des sages. Et même s'ils sont encore étudiants, nous ne sommes que la deuxième année de Nebuchadnezzar, ils font déjà partie des sages, et Nebuchadnezzar est en train de détruire par là toute son œuvre. Notez cette folie. Il a mis des années, il a un projet depuis longtemps. Il a réuni les meilleurs savoirs et les meilleurs enseignants de toute la planète. Et il est en train de tout détruire. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. On va voir l'art de Daniel, et on va voir comment il s'y prend pour calmer une colère. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjok exposa la chose à Daniel. « Un bon moyen de calmer le jeu consiste à poser une question. » Il s'informe. Il n'est pas injurieux, il n'insulte pas Nebuchadnezzar, il ne récrimine pas, il dit « Pourquoi ?» simplement. Et Arjok va lui expliquer ce qu'il a compris de la chose. Donc, non seulement il s'informe, mais alors que sa propre vie est en jeu et celle de ses compagnons également, il ne perd à aucun moment son calme. Il le garde et il le gardera jusqu'au bout. Je ne dis pas qu'il n'a aucun stress, certainement, mais il a cette sagesse de garder son calme, de garder sa raison, de garder sa maîtrise de soi, et cela montre certainement pour ce jeune déjà une large pratique de cette maîtrise de soi. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. C'est l'élément le plus sage de la décision de Daniel. Il y a eu cette course de vitesse entre Nebuchadnezzar et les Chaldéens qui a fait monter les enchères très vite et lui calme le jeu. Il demande du temps. Il ne dit pas que l'explication est impossible à donner. Non. Il demande du temps pour donner cette explication. Probablement, il espère déjà que Dieu va lui donner une réponse. Mais pour l'instant, il a besoin de temps. Il a besoin de temps pour quoi ? Eh bien, il a besoin de temps pour prier. Et souvent, nous ne nous rendons pas compte que nous nous précipitons à la recherche d'une solution, alors que la solution consiste simplement à prier. La dernière décision de Nebuchadnezzar portait sur le temps. Vous cherchez à gagner du temps. Daniel ne cherche pas à gagner du temps, il demande ce temps le plus paisiblement du monde. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons. Donc Daniel va partager son souci. Il y a des soucis que nous ne pouvons pas partager, mais là il le pouvait. Et non seulement il va prier, mais il va prier en groupe. Et je crois qu'il ne nous faut pas négliger la prière en groupe. Les engageant, dit le verset 18, à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. L'objectif, dans un premier temps, est d'essayer d'éviter la mort. Il semble que le sort du reste des sages de Babylone, soit il est déjà entamé, soit il est irrévocable, mais nous allons voir que Daniel va tout faire pour éviter le pire. Et donc, ils vont prier. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Nous réalisons à travers cela que non seulement Daniel a eu la foi, non seulement il a partagé son problème avec ses amis, mais quand Dieu lui a donné la réponse, alors il a immédiatement remercié et béni le Dieu des cieux. Là encore, c'est une leçon pour nous et nous voyons ce trait de sagesse afin que nous puissions nous-mêmes, dans notre vie de tous les jours, pratiquer de la même manière. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom du Dieu, de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » La sagesse et la force, oui, parce que la sagesse vient de lui être donnée, mais la force parce que face à cette force indomptable qu'est la colère de Nebuchadnezzar, Dieu lui a donné les moyens de la contrer. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Et vous vous rappelez que Nebuchadnezzar avait dit aux Chaldéens, « Mais vous espérez que les temps et les circonstances changent. » Et je vous avais dit, ce temps et ces circonstances, c'est probablement que le temps du roi soit passé. Et Daniel nous le confirme ici dans ce verset. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Vous voyez donc qu'il y a confirmation ici que si Nebuchadnezzar n'avait pas pris cette décision d'éliminer les sages, le complot se serait ourdi immédiatement. Nous verrons avec le chapitre 7 une bête tenter de changer les temps et la loi. Ce faisant, elle usurpe la place de Dieu. C'est Dieu qui renverse et qui établit les rois. Et c'est bien l'objet de cette vision que de montrer que c'est Dieu qui tient en main le temps et qui tient en main les circonstances. Daniel n'hésite pas. Dès qu'il a la révélation de la vision, il l'a comprise. Et il peut tout de suite aller rencontrer le roi. Daniel explique ce que signifie changer les temps et les circonstances. Mais il a déjà compris que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Et justement, la vision va porter sur ce sujet-là. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Il révèle ce qui est profond et caché. Vous vous rappelez que justement, ce que pensaient les Chaldéens, c'est qu'il n'y avait pas de communication entre le monde des dieux et le monde des hommes. Alors non seulement Dieu connaît ce qui est dans les ténèbres, mais il ajoute une idée, et la lumière demeure avec lui. C'est-à-dire que cet avenir qui nous est caché, qui est pour nous comme dans les ténèbres, il est éclairé par Dieu. La lumière demeure en lui, donc Dieu n'a pas de présent, de passé, d'avenir. Il sait ce qui va se passer, il est dans la lumière. Mais pour nous, il faut qu'il l'éclaire, qu'il jette une lumière sur ce que sera l'avenir. Il révèle. Voilà la grande différence entre le Dieu des Chaldéens et le Dieu de Daniel. Le roi adressa la parole à Daniel, nous dit le texte un petit peu plus loin, et dit en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Nebuchadnezzar est conscient, et on le voit ici, qu'il avait demandé quelque chose d'absolument impossible aux sages. Et il comprend que ce n'est pas la sagesse de Daniel qui est en cause, ou la sagesse des Chaldéens, mais c'est le Dieu qu'il révère. Et là, c'est un Dieu qui révèle les secrets. Et le premier caractère de ce Dieu qu'il ne connaît pas, le premier caractère que Nebuchadnezzar découvre, c'est que c'est un Dieu qui révèle les secrets. Dieu de mes pères, dit Daniel, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Ne fais pas périr les sages de Babylone. Sa première pensée, avant même d'aller rencontrer le roi et par là de sauver sa vie, c'est de sauver la vie des autres sages de Babylone, qui le lui rendront bien mal et qui ne vont pas hésiter plus tard, nous le verrons au chapitre prochain, au chapitre 3, qui ne vont pas hésiter à accuser les compagnons de Daniel et à les calomnier. Donc, première intention de Daniel, sa générosité. Il aurait pu profiter de l'occasion pour éliminer tous ces, ou laisser éliminer tous ces sages, et considérer qu'il avait, lui, un rôle important à jouer, et que Dieu lui ouvrait la porte. Non. Il n'est pas favorable à éliminer ces sages. Il ne se conduit pas ainsi, il n'en a pas la pensée, au contraire. « Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Il est tout à fait affirmatif. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » J'ai trouvé. Notez ce trait de caractère d'Arjoc qui va essayer de se faire valoir auprès du roi Nebuchadnezzar. Il va chercher à monter en grade, il va chercher des louanges. J'ai trouvé. S'il avait trouvé parmi les sages, ça aurait été peu glorieux. Et il va donc dire « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda ». C'est-à-dire qu'il va prendre la désignation de Daniel la plus péjorative, un homme qui donnera l'explication au roi. Oh, ne nous est-il jamais arrivé d'essayer de profiter d'une circonstance où nous avions la possibilité de présenter quelque chose ou de présenter quelqu'un et de nous faire valoir pour cela? Daniel n'est pas de cet acabit. J'ai trouvé donc parmi les captifs de Juda un homme qui donnera la révélation au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Que les devins, les astrologues et les chaldéens essaient de se justifier, on peut le comprendre. Mais par contre, que Daniel les défende devant Nebuchadnezzar prouve encore une fois qu'il a une extrême générosité. Ce sont des gens qui ne pensent pas comme lui, qui n'adorent pas leur Dieu, qui sont des étrangers et qui montrent toutes sortes de défauts très probablement. Mais pour autant, il ne va pas chercher à les détruire, il cherche à les défendre au risque de déplaire à Nebuchadnezzar puisqu'ils ont dit la même chose. Mais ce n'est pas eux qui le disent. Et Daniel, discrètement, délicatement, prend leur défense. Ce n'est pas de leur faute, ils ne le peuvent pas. Il y a donc de la modestie en lui, de la bonté envers les autres sages, et il va montrer que ça n'est pas lui qui est en cause. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Voilà. Voilà quel est ce Dieu. Et il dit, je ne suis pas meilleur que les autres, mais c'est mon Dieu qui est meilleur que les autres, qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi, qui m'a fait connaître, bien sûr, puisqu'il découvre le secret, mais qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voilà donc un dieu qui communique, alors que les dieux des Chaldéens ne communiquaient pas. Mais regardez la largesse de vue de Daniel, qui est prêt à reconnaître que ce Dieu-là, son Dieu, est un Dieu qui se révèle aussi à un monarque païen. Et donc il n'a pas de vue étroite sur ce sujet. Et il reconnaît que Dieu peut se révéler à lui. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Et là, Daniel va montrer combien ce Dieu qui révèle les secrets les révèle d'une manière précise. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant à ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées. Et Daniel a compris non seulement la révélation qui a été faite à Nebuchadnezzar. Mais il comprend que cette révélation est en relation avec le tracas de Nebuchadnezzar. Quel est le souci de Nebuchadnezzar? Et on peut comprendre que Nebuchadnezzar est en train de veut bâtir quelque chose d'unique, veut bâtir un gouvernement mondial. On le verra par la suite. Il veut bâtir une université mondiale. Il veut établir un savoir international. Et il y a bien des choses dont nous bénéficions encore aujourd'hui, ne serait-ce que l'acclimatation de certaines plantes venues de l'Orient et qu'il a acclimaté, que nous avons maintenant en Occident. Donc, ce que Nebuchadnezzar a fait est remarquable. Mais toutes ces techniques tout à fait remarquables, les techniques qui lui ont fait construire les jardins suspendus de Babylone, ou la grande muraille de Babylone, qui lui ont permis de cuire les émaux qui décorent l'allée principale de Babylone, et toutes les techniques très avancées que Nebuchadnezzar a mises en place, tout cela révèle que Nebuchadnezzar avait un projet. Et ce projet, non seulement il était prêt à le remettre en cause à travers le fait de tuer tous les sages, mais il se demande maintenant comment et qui va pouvoir prendre sa suite. Nous allons voir quel objectif il aura, mais il réfléchit. Et il est très probable qu'il ne voit personne pour prendre sa suite. Et il ne voit personne pour reprendre ce travail, le peaufiner, l'améliorer, le maintenir. Et il est inquiet. Et effectivement, après sa mort, ni son fils Evil Merodach, ni ses gendres qui vont prendre sa succession, Nériglissar ou Nabonide, ne vont pouvoir mettre en place et maintenir le royaume extraordinaire qu'il a établi. Alors, il s'interroge. Et face à cette interrogation, face à ce problème qui se pose à lui, Dieu va lui révéler un secret. Ce secret, nous allons le découvrir. Mais Nebuchadnezzar doit comprendre ce qu'il est en train de réfléchir. Et il va comprendre que ce qu'il a eu comme réponse de la part de Dieu est une réponse à sa question. Qui peut prendre la suite? Il t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Et nous voyons dans ce passage, et Daniel le comprend parfaitement et lui délivre ce message qui est plus personnel, qui n'est pas simplement une connaissance de l'avenir, que tu connaisses les pensées de ton cœur. Il y a bien sûr le souci de l'avenir, mais le souci de l'avenir pour Nebuchadnezzar passe en réalité par l'orgueil qui est le sien. Il est tellement orgueilleux qu'il pense que personne ne peut prendre sa suite. D'une certaine manière, il a raison, mais il faut qu'il connaissent ses pensées orgueilleuses. Et il faudra arriver au chapitre 4 de ce livre de Daniel pour que Nebuchadnezzar les reconnaisse, ses pensées orgueilleuses, et les avoue. Et chaque fois que nous nous trouvons impliqués dans une action de Dieu, quelle qu'elle soit, et une action qui nous dépasse, une action qui a trait à un projet beaucoup plus vaste que nous, il est rare qu'il n'y ait pas dans ce projet un aspect, une facette qui nous concerne personnellement. Nous sommes habitués à voir cette prophétie du colosse au pied d'argile comme une révélation de l'avenir. Elle l'était et elle l'est toujours. Mais il y a pour Nebuchadnezzar un projet précis. C'est qu'il connaisse les pensées de son cœur. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Et ce livre de Daniel, ce colosse au pied d'argile en particulier, est destiné à ce que chacun d'entre nous puisse connaître les pensées de son cœur. Les connaître, oui, mais devant Dieu, les reconnaître et en tirer les conséquences. Je vous remercie de votre attention.